au cœur du sport. Avec Gaël, l'actualité du sport en Côte d'Armor.
Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Gaël pendant une heure sur COB FM. Merci Willy pour ce flash info et on est de tout cœur avec ces personnes dans la région de Dinan qui ont eu des méconvenus ce week-end et vraiment des tristes informations, mais voilà, on a une très forte pensée pour eux comme chaque émission cette année, une petite pensée aussi pour les cyclistes qui ont eu des accidents de route. Voilà, c'est un message que je porterai toujours à chaque émission cette année. Faites attention aux cyclistes sur les routes, quels qu'ils soient. Ça peut être des enfants, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des coureurs cyclistes à l'entraînement, des cyclos, faites attention à eux. Bon, ce soir, dans Au cœur du sport, ça va envoyer du pâté. À l'occasion des World Skate Games qui viennent de se terminer en Italie, eh bien, on va faire le point de nos champions et nos championnes qui ont participé à cet événement, ce grand événement que je compare totalement à ce qu'on a connu en France à Paris pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Il faut quand même reconnaître que c'est World Skate Games avec du roller, avec du skateboard, avec du rink hockey forcément et du hockey inline. Voilà, on a plein de compétition ultra spectaculaire, très télévisuelle. On regrette de ne pas les avoir vus d'ailleurs sur les chaînes habituelles françaises, mais voilà, ça suivait sur internet très très bien. Et puis en plus, il y a eu des très bons résultats. Pour nous accompagner ce soir, une petite surprise, tiens, on a notre vice-champion du monde de l'antiquet, Giovanni Trebuta, qu'on va retrouver tout de suite après la première interview. En deuxième partie, on aura du rink hockey avec Olivier Gelbart, l'entraîneur adjoint de l'équipe U19, de l'équipe de France. Donc. Et puis, on aura la légende Mathieu Leroux en toute fin d'émission, hein, qui était dans cette équipe de France 2022, qui avait gagné la médaille de bronze. Et on va commencer avec Firestarter. C'est le surnom de Pascal Briand parce qu'il savait mettre le feu sur les pistes et il le sait encore. Hein. Alors on va le retrouver tout de suite après ce petit morceau de Firestarter de Prodigy. Évidemment, Pascal Briand, la légende du roller en Côte d'Armor, c'est pour tout de suite.
Et on arrive en Italie, on va du côté de Pescara, on rejoint Pascal Briand. Bonsoir Pascal.
Ouais, bonsoir à tous. Bienvenue en Italie. Un peu de soleil, mais on a eu le droit à quelques averses quand même ces derniers jours.
Alors, ce qui est très pénalisant pour le roller, forcément, mais on trouve toujours des solutions. Très heureux de t'avoir, Pascal. Un immense palmarès, que ça soit en tant que coureur ou en tant que coach. Et en ce moment, tu es en Italie parce que tu t'occupes de l'équipe nationale allemande.
Exactement, voilà, depuis 2 ans et demi, l'équipe d'Allemagne. Voilà, après avoir servi la France pendant quasiment 10 ans en tant que jeune, j'ai eu des opportunités, après avoir travaillé pour une marque allemande de roller, de aussi prendre en charge l'équipe nationale. Maintenant, c'est une nouvelle aventure et c'est vraiment intéressant aussi de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de fonctionner avec d'autres équipes nationales. Donc, c'est très enrichissant pour moi en tout cas.
Bon, et puis ça se passe pas trop mal, j'ai l'impression que tes conseils ont été suivis.
Ah, ouais, on vient de faire, hier on est rentré avec un titre, patineur allemand qui est la course reine en sprint sur la route, et une autre patineuse qui fait sa première médaille au niveau mondial avec une deuxième place. Donc ouais, c'est exceptionnel, on a passé une soirée unique, très émouvante. et où il y avait beaucoup de plaisir pour l'équipe. Voilà, on a eu des rires et des pleurs. Donc c'est super intense hier soir, on s'est régalé.
Bon, à 48 ans pour toi, c'est une nouvelle aventure qui se dessine et on est très heureux que ça se passe bien pour toi. Les World Skate Games en Italie, on sent qu'il y a une effervescence, le public est présent?
Oui, le plus présent. Donc, pour les courses sur piste, ouais, ils avaient monté une tribune officielle classique autour de la piste, ils avaient monté d'autres tribunes autour. Et vous voyez, tous les soirs, ils étaient complets. Donc, le stadium était rempli. Il y avait une file d'attente même à l'entrée pour au cas où les gens sortaient, ils perdaient leur place, d'autres qui pouvaient rentrer. Donc, ouais, il y avait une belle effervescence. En Italie, bon, ils ont une culture du roller, surtout dans cette partie à Abruzzo. Là, c'est une partie historique du roller. Donc, il y avait vraiment du monde. Avec une piste aussi très traditionnelle, un peu comme à mon époque, ils ont fait des pistes où il y avait beaucoup possibilité de trajectoire, donc le spectacle était là, il y avait de l'incertitude et du spectacle dans tous les virages, donc vraiment un championnat piste magnifique. Et sur la route, ils ont fait aussi une organisation à l'italienne super intéressante où ils utilisent un circuit routier qui est souvent en plein centre des villes. Ils nous font souvent ça quand ils organisent les mondes. Donc là, on était à Sulmona, qui est une ville de taille moyenne de la région, mais on était plein centre avec cette architecture italienne tout autour, des tribunes tout autour du circuit. Il y avait une ambiance exceptionnelle. Ouais.
Alors, tu es avec l'équipe d'Allemagne, mais tu as toujours un regard très attentif sur les performances françaises, avec notamment Marine Lefebvre qui vient de choper l'or sur le 15 km par élimination.
Ouais, c'était exceptionnel. Ça fait vraiment plaisir pour elle parce que ça fait toute sa carrière. Hein, elle court après cette médaille d'or. Elle a déjà fait des médailles d'argent, des médailles de bronze. Et être capable d'aller battre les collants, c'est unique. Il y a très peu de nations qui sont capables de faire ça. Et Marine, elle est allée prendre cette médaille d'or avec classe. Elle manque de virage. Elle vient dépasser dans la dernière ligne droite la patineuse de l'Équateur, qui est aussi une énorme championne. Et ça fait 21 ans qu'il y a une française championne du monde en roller. La dernière, c'était Estelle Florence en 2 à Jeun. Donc voilà, Marine est une course de fou. Elle vient de marquer l'histoire, hein, parce que 21 ans sans titre, c'est génial. C'est aussi un super message pour toutes les autres patineuses qui sont derrière et qui vont se dire que c'est possible, en fait. Donc ça, je pense que ça va déclencher quelque chose et qu'on est peut-être pour une série où les Françaises peuvent plus de titres dans les années à venir.
Ouais. Avec également une jolie place pour Arthur Lebeaupin qui lui a chopé le bronze sur le 10 km à course au point. C'est une belle satisfaction pour l'équipe de France, j'imagine que pour toi aussi tu es vraiment très satisfait de voir le roller français au rendez-vous.
Bah oui, ça fait toujours plaisir. Arthur, c'est un champion et dans une catégorie junior où il y a un niveau incroyable, notamment avec un patineur tchèque qui domine vraiment largement la compétition. Donc il laisse un petit peu les miettes aux autres, mais être capable d'aller chercher cette médaille, ça fait plaisir parce que moi j'ai couru avec son père. On s'est tiré la bourre il y a 20 ans, on courait ensemble. Donc semaine à faire des bons résultats et une médaille en championnat du monde. C'est un des meilleurs européens et il est vraiment dans les costauds, il a une super mentalité. Il est bien suivi avec les Français, il y a vraiment une grosse culture de l'entraînement en France avec des énormes techniques et tactiques. Ouais, ça fait plaisir de voir ces jeunes qui tournent autour des médailles, qui tournent autour du titre. Qui vont réussir, il n'y a aucun doute.
Et puis pour Arthur, c'est un petit clin d'œil au passage à la formation costa-armoricaine, puisqu'il est passé par les rangs du lycée Sacré-Cœur avec Vincent Morvan. Ça forme toujours bien en Côte d'Armor et de ce côté-là.
Ouais, bah c'est sûr, hein, c'est un petit peu le village d'Astérix. Hein, on passe par là, tous les bons, il faut qu'ils passent par là. Et d'ailleurs, quasiment tous les bons, ils passent par les mains de Vincent Morvan. C'est pas le seul entraîneur, mais c'est un des meilleurs entraîneurs français, si ce n'est pas le meilleur. Donc, on a de très bonnes affinités. On a travaillé en son temps avec la Fédération française de roller. Et bon, il n'y a pas de surprise, hein, ceux qui passent par le Saint-Moyeux, ils ressortent avec un bagage technique, physique, indéniable. Ils sont directement, au bout de 2 ans, souvent dans les meilleurs Européens. Mais surtout, même quand après ils évoluent dans d'autres, gardent la culture enseignée par Vincent. garde un avantage de connaissances. Hein, ça rayonne sur toute leur carrière derrière. Même quand ils ont fini leur apprentissage dans le Pôle Espoir, on voit bien qu'ils sont dans une mentalité où ils vont continuer de progresser. Et ça va. Ouais, ça, c'est des jeunes qui vont cartonner. Donc, y en a plein d'autres qui ont été formés parmi d'autres. Et début, parce que même si ça fait, je pense, plus de 10 ans qu'il y a le pôle, ça va commencer à rayonner au niveau senior aussi.
On a eu également des très bons résultats aussi en championnat d'Europe, hein, récemment à Ostende. Et puis toi-même, tu étais présent au championnat de France qui ont eu lieu au mois de juin, tout début de l'été. C'était à Étables-sur-Mer, là aussi un anneau qui est très cher à ton cœur.
Ouais, bah la piste d'Étables, elle est magnifique avec sa belle couleur rose. Elle est assez unique, même en Europe. Elle est vraiment belle. Il y a une belle matière. Elle a été rénovée il n'y a pas longtemps. Et bah moi, c'est sûr, dès que je vais revenir en Bretagne, je ne m'en prive pas. Mes parents sont là aussi. Et ça fait toujours plaisir de rencontrer tous les patineurs, mes anciens entraîneurs qui sont du secteur. C'est des gens qui ont beaucoup compté dans le roller, qui comptent toujours et qui continuent de former des jeunes dans cette discipline. Donc, ouais, ça fait toujours plaisir. Voilà, la Bretagne, c'est une idée. Dès que je peux rentrer sur Saint-Brieuc, je prends l'occasion et je reviens par là. Je roule un peu aussi sur la piste de Saint-Brieuc. toujours sympa, historique et très technique. Ça fait toujours plaisir de mettre le patin, de retrouver des petites sensations d'enfance, des souvenirs de quand, dans les années 80 et 90, on entraînait sur cette piste avec le rack Saint-Brieuc. C'était voilà, des super souvenirs.
On avait d'ailleurs eu le plaisir en tout début d'année d'y voir. J'avais filmé Karine Urvois, hein, que tu avais bien connue autrefois dans le club de Saint-Brieuc et qui avait pour l'émission rechaussé les rollers. Et elle avait fait quelques tours comme ça pour nos auditeurs et pour nos followers sur les réseaux sociaux. On est très heureux donc de t'avoir, Pascal, d'autant que on parle beaucoup olympisme en ce moment, et puis on n'oublie pas ton passage aux Jeux Olympiques de Vancouver, hein, c'était en 2010, et cette fois-ci c'était les JO d'hiver. Quel souvenir toi tu gardes de ton aventure olympique? On vient de vivre les JO en France, raconte-nous un petit peu comment toi tu avais vécu les choses, donc quel souvenir tu gardes?
Bah, c'est toujours une aventure exceptionnelle. Alors, même si j'ai pas fait de performance, j'étais plutôt en fin de carrière, c'était un peu le jus de chaussette. C'était du bonhomme, mais l'objectif, c'était, après toute ma carrière roller, d'essayer de faire un sport aussi olympique pour découvrir ça. On se rend compte aussi de la taille de l'événement, du niveau. Maintenant, c'est permis d'ouvrir les portes et il y a maintenant du roller qui aussi font de la glace l'hiver. C'est très complémentaire. Les patineurs à succès au roller, à faire les deux. Donc, les transitions roller et glace sont intéressantes. Ça ouvre plein de portes. Si le roller, en termes de niveau, finalement, a un niveau plus élevé, parce qu'on a 58 pays sur des championnats du monde en roller, donc ça, finalement, de compétition par rapport à du patinage sur glace, ou sport d'hiver, il y a souvent moins de pays qui peuvent pratiquer. Mais le fait qu'il y ait de l'olympisme, ça fait quand même montrer un gros niveau. Et il y a énormément d'athlètes de plusieurs pays qui arrive à cumuler, et notamment un Belge, Bart Swings, qui est champion du monde ici en Italie, qui était champion olympique il y a quelques années sur les dernières Olympiades. Donc c'est possible, il y a beaucoup de Français qui s'y intéressent aussi, et il y a une coopération entre le ministère et la Fédération de Roller pour mettre des patineurs à la glace. Et j'espère plein de jeunes qui vont aussi se lancer dans la roller, parce que c'est, on va dire, leur formation de base, c'est ça qui leur donne leur moteur. Alors, le roller, ça permet vraiment de se faire la caisse, et quand on va sur la glace après, on peut faire des essais si on est capable de s'adapter techniquement. Donc voilà, j'espère que ça va réussir. Vincent et aussi et la fédération, je pense que Vincent Morvan, ils sont capables de préparer des jeunes qui, à l'avenir, et peut-être avec des Jeux en 2030 en France, pourraient faire des médailles olympiques ou des.
C'est justement là où je voulais en venir. C'est ce lien qu'on aura certainement en 2030 avec ces JO en France. De nouveau, les JO en France, ça va être une très très belle aventure. Allez, dernière question, Pascal. Ça va être difficile d'y répondre, je le sais bien, mais avec un palmarès aussi immense que le tien, 8 titres de champion du monde, 14 titres de champion d'Europe, 44 champions de France, c'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a un titre en particulier, un souvenir que tu garderas par-dessus tout en tant que compétiteur?
Oui, alors tous ces titres, ils sont importants, mais le meilleur souvenir de ma carrière, en fait, c'est une course. J'ai terminé deuxième. C'est le championnat du monde qui, d'ailleurs, se déroulait ici à Pescara en 2004. Et on est sur le 1000 mètres et je fais deuxième derrière un autre Français. Et au final, c'était le meilleur souvenir de ma carrière parce qu'on avait réussi à faire une course tactique qui a permis, c'était Tomoche qui avait gagné la course du coup, et ça a permis, voilà, le fait d'avoir su courir ensemble, d'avoir su se sacrifier aussi pour qu'un autre patineur gagne, je pense que c'est le meilleur souvenir de ma carrière. C'est aussi quelque chose qui crée une amitié finalement entre les équipiers comme ça qui reste toute une vie. Et aujourd'hui, Thomas Boucher, il est entraîneur de l'équipe de France, moi je suis entraîneur de l'équipe d'Allemagne, et on se tire la bourre mais avec des valeurs qui sont fortes et avec beaucoup de respect. Donc voilà, c'est un plaisir de voilà, c'est le meilleur souvenir de ma carrière, même si c'était pas une victoire. Je pense que ce moment d'âge de coopération est plus fort que même 8 titres de champion du monde.
Merci beaucoup et bravo. Et puis c'est tout à fait en lien avec ce magnifique triplé de l'équipe de BMX. Hein. On en parlait la semaine dernière dans l'émission Au cœur du sport sur Cob FM. Voilà, ce doublé de 2004, effectivement, c'est quelque chose d'incroyable. Vive le roller. Et le roller, bien évidemment, n'est pas qu'un sport individuel. Hein. Le rôle des équipiers est prépondérant. Merci beaucoup, Pascal. Et puis on te souhaite une très belle fin de World Skate Games en Italie.
Merci à vous, à bientôt.
Salut Pascal.
Au revoir. Salut, salut.
Ah, l'Italie qui a fait rêver beaucoup de sportifs français dans cette belle délégation française. Et tout de suite, on va retrouver celui qui a été médaillé, et pas que, parce qu'il a fait vraiment un World Skate Games absolument éblouissant. Alors on va féliciter notre Lantiquet Giovanni Trebuta.
Félicita. Quanto mi piace la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero.
Eh, pas mal la petite playlist italienne ce soir. Vous allez manger du... On va manger italien ce soir. Hein. Préparez vos assiettes et surtout vos oreilles. On va se retrouver tout de suite du côté... Ah, il est pas à l'antique, mais il va bientôt y être reçu, je suis sûr. Giovanni Trebuta.
Come un sorriso che sa di felicità.
Un médaillé costa-ricain au championnat du monde sur Cob FM, c'est pas tous les jours. On est très fiers d'entendre Giovanni Trebuta. Bonsoir Giovanni.
Bonsoir, bonsoir.
Giovanni, tu es de tout juste de retour d'Italie. J'imagine que tu as des étoiles plein les yeux.
Oui, exactement, exactement. Je réalise de plus en plus. J'ai eu du mal à réaliser au tout début quand j'ai pris la médaille. Je commence à réaliser, surtout quand j'ai vu mes amis, etc., à l'aéroport hier qui m'attendaient, donc aux anges.
Bah oui, bien sûr. Est-ce qu'à l'instar d'un Alexandre Léauté reçu tel le Messie à Saint-Caradec avec ses médailles olympiques, est-ce que l'Antique va recevoir ce champion à la mairie?
Il y a de grandes chances. Je pense que oui, le maire normalement devrait me recevoir à la mairie dans les prochains jours.
Et ben, ça sera tout à fait mérité. Bravo Giovanni pour cette belle saison avec qui avait pas mal commencé cet été, en tout cas, hein, avec une deuxième place au championnat de France à domicile. C'était sur l'anneau d'étable, là où tu as fait tes débuts.
Oui, c'est ça. J'ai commencé du coup le roller à étable à l'âge de 4 ans. Et après, je suis parti du coup au club de Guingamp, mais j'ai fait de mes 4 ans jusqu'à mes 10 ans au roller Sud-Guello. À cette époque, on n'avait pas la piste à l'étable. On s'entraînait au collège Camille Claudel ou au parking, je me rappelle, au parking de Pordic, de l'Intermarché. Et puis maintenant, on a la piste à l'étable. C'est un grand plus pour le club déjà et pour le sport. C'est top, ça peut développer dans notre région. Donc c'est top.
C'est top. Alors un grand coup de chapeau aux deux clubs hein, dans lesquels tu as évolué avec le roller Sud-Guello et avec le club de Guingamp de Marédine-le-Tyran. Là aussi, c'est une belle récompense pour l'ensemble du travail de ces deux très jolis clubs. On arrive ensuite, après les championnats de France, au championnat d'Europe où là, ça se passe pas trop mal. Tu prends une belle cinquième place notamment. Comment toi, tu abordais ces championnats du monde en Italie?
Bah, je les abordais, bah, déjà c'était mes premiers championnats du monde, c'était du coup ma première sélection en championnat du monde, donc je les abordais avec un peu de crainte, mais aussi pas mal d'excitation de pouvoir affronter les meilleurs mondiaux. Je me suis bien préparé, j'ai fait une grosse préparation du coup sur Nantes, parce que je suis au Pôle France de Nantes, là où je m'entraîne une grosse partie de l'année. J'étais du coup avec Martin Ferrier, qui lui aussi était dans l'équipe. Donc on a fait une bonne préparation ensemble pendant un mois et demi. On a fait un gros bloc où c'était des entraînements très durs. Finalement, avant d'arriver au championnat du monde, on a réduit les intensités. Et une fois arrivé sur place, quelques jours avant le début du championnat, je sentais que j'avais la forme, je me sentais vraiment bien. Après, il fallait un peu de chance qui pousse ou la bonne opportunité sur la course. Je l'ai eu, donc c'était incroyable.
Incroyable comme ce dénouement du marathon. On va parler du plus frustrant avant de parler du plus beau. Mais cette course du marathon roller qui t'échappe avec cette victoire, hein, il faut se souligner, de Nolan Bediaf, l'autre costard mauricain. Hein. Mais cette victoire au marathon roller t'était promise avant cette chute. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben en fait, j'ai essayé plusieurs fois durant le marathon de partir en échappée. C'était très compliqué de partir parce que c'était des grandes lignes droites. Du coup, c'était des très grosses allures, ça allait très vite. Je me rappelle de regarder la montre au bout de 10 km, on avait 46,5 de moyenne, donc ça roulait fort, c'était dur de s'échapper. Mais à peu près 9 km de l'arrivée, j'arrive à m'échapper avec deux autres gars. Il y en a un qui craque dans la roue, donc on était plus que deux. Et malheureusement, en regardant ma montre pour voir combien de kilomètres il me restait, je glisse sur une flaque d'eau qu'il y avait dans la ligne droite. Je sais pas pourquoi il y avait une flaque d'eau, ça faisait deux jours qu'il avait pas plu. Et malheureusement, bah, du coup, je pousse sur la flaque d'eau et je tombe à 5 km de l'arrivée. Sachant que, on sait pas quoi est fait la course, mais il y avait de très grandes chances que ça aille au bout, je me sentais bien. Et le peloton avait pas mal de retard, donc peut-être l'or qui m'a échappé sur le marathon. J'étais forcément très frustré et déçu à l'arrivée, mais j'ai pu me relever et finir dans le peloton quand même.
Ça aurait été magnifique d'avoir un doublé costard mauricain qui vous était promis à toi et à Nolan, mais cette médaille, tu l'as quand même obtenue quelques jours auparavant, hein, avec cette médaille d'argent sur 5000 mètres au point. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est dessiné, cette victoire.
Bah, c'était dans mes plans d'avant-course. En fait, ça s'est un peu déroulé comme je l'avais prévu. Par chance, c'est très rare que ça arrive. Mais j'avais comme rôle, moi, de quand j'avais une opportunité d'y aller, sachant que j'avais du coup mon coéquipier qui était avec moi, qui lui voulait faire un premier bloc en début de course pour aller prendre des points, puis un autre bloc à la fin. Et moi, je devais y aller quand je le sentais. Donc j'ai laissé le début de course se faire avec des fondeurs qui vont très vite, comme Jacobo qui a fait champion du monde l'année dernière du 5 km, du 10 km, mais du coup maintenant c'est le 5. mais qui était champion du monde avec Bart Swing. Donc je les ai laissés faire les premiers sprints au début. Et j'ai senti une opportunité, ça s'est un peu temporisé. Et j'ai tenté ma chance, j'y suis allé à 100% directement au début. J'ai envoyé tout ce que j'avais pour essayer de creuser l'écart assez rapidement. Du coup, je suis parti avec deux autres gars, Bart Swing, qui est du coup champion olympique en titre, et Jacobo, qui est champion du monde. Donc on sort à trois et Jacobo prend pas de relais, mais il arrive pas à suivre. Donc on se retrouve plus qu'à deux avec Bart Swing. Et là, c'était un peu la bataille, quoi. On se volait les points l'un à l'autre. Et puis le peloton est revenu du coup sur nous à 6 tours de l'arrivée. Et ben, il avait 2 points d'avance sur moi, donc la course était un peu pliée pour moi. Je savais que j'allais faire 2 parce que j'avais vu à peu près qui était devant quand c'est revenu. Et puis voilà.
Et puis voilà, c'est une très très belle médaille d'argent. On a bien entendu au passage que tu as parlé d'un champion olympique qui t'accompagnait. Je souligne juste avant de se quitter que tu prépares évidemment les Jeux Olympiques en patinage sur glace, avec ces Jeux Olympiques en Italie toujours en 2026 qui approche. Donc c'est sûr, c'est certain. Giovanni, on va se retrouver de nouveau sur Com FM dans les mois et les années à venir. Avant de se quitter, je précise que, comme beaucoup de sportifs de haut niveau comme toi, tu es à la recherche de partenaires et je suis sûr que ce soir, il y en a qui vont se décider parce qu'avoir un tel champion, quelques mois, quelques semaines, quelques années, je ne sais pas comment on peut dire, mais très peu avant les Jeux Olympiques, là je pense qu'il y a une grosse pépite à prendre. Merci Giovanni et félicitations encore pour cette médaille d'argent au championnat du monde.
Merci beaucoup à vous pour votre temps.
Merci. Salut.
Quelle belle aventure italienne qu'on vient d'entendre. Et puis une jolie chanson en même temps. Un petit clin d'œil, tiens, pour le roller skate game. World Skate Games. Le roller sud vélo d'Étables, avec notamment les deux petites sœurs de Giovanni qu'on a entendu tout à l'heure, qui ont commencé au patinage artistique. Et un coucou à Clara Roctanière qui s'occupe de préparer ces jeunes filles avec un gala de fin d'année qui est toujours très sympa à suivre. On aura l'occasion d'en parler prochainement. On va se rapprocher, on va quitter l'Italie, on va revenir par ici quand même, hein, pour aller du côté de Quintin, parce que y a Erwan Michou qui nous attend. Du Quintin Roller Club, évidemment. Che confusione sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo veloce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella. Eh bien, cette petite playlist italienne là pour les World Skate Games en Italie, on a passé vraiment deux très belles semaines avec des titres, avec des belles aventures. Bonne soirée sur Com FM.
Et on rejoint Quintin avec Erwan Michou. Comment ça va, Erwan ?
Bonjour, ça va, nickel.
Bon, ça s'est bien passé la semaine dernière. Tu organisais avec le club du Quintin Roller Club la deuxième édition des Grenouilles à roulettes. Comment ça s'est passé, dis-moi ?
Bon, les conditions étaient parfaites. On a eu un week-end avec une super météo. On n'a pas eu de pluie du tout du week-end, ce qui est assez rare dans l'été d'avoir des week-ends comme ça. Donc, on est vraiment tombé la bonne date. Et les participants sont venus en nombre. Les riverains étaient contents de voir ça. Donc, enfin, tout était réuni pour que ça marche et ça a été le cas.
Bon, on s'arrête sur ce nom rigolo qui prête à sourire, en tout cas avec les grenouilles à roulettes, mais il y a du sérieux. Il y a du sérieux parce que l'année dernière, pour la première édition, eh bien, tout simplement, vous aviez deux champions du monde. Alors, vous avez Nolan Bediaf qui avait remporté la course en homme. Et côté femme, eh bien, c'est Marine Lefebvre qui vient de s'imposer au Roller Skate Games en Italie. C'est quand même là la trace d'une compétition vraiment reconnue.
Ah oui, carrément, c'est hyper satisfaisant pour nous de se dire que l'an dernier, on avait quand même des patineurs d'un très haut niveau, ce qui était encore le cas cette année, sauf que bah, il y avait les World Skate Games en même temps. Mais de se dire que les deux anciens vainqueurs de Quintin ont été champions du monde pour Nolan et sont champions du monde cette année pour Marine, ça fait vraiment plaisir, d'autant plus qu'il y a Giovanni aussi qui était là, qui fait médaille d'argent aux championnats du monde cette année.
Giovanni Tributa.
Oui, Giovanni Tributa, oui. Et Martin Ferrier aussi, qui était là l'an dernier, qui a fait deuxième à marathon à Quintin, et qui était au championnat du monde aussi cette année. Il n'a pas forcément eu les résultats qu'il souhaitait, je pense, mais il était présent au championnat du monde, il a fait des bons résultats aussi. Donc, ça fait plaisir de voir que des patineurs qui ont participé à la première édition ont pu représenter la France et bien représenter la France lors des mondiaux.
Avant de parler des résultats de cette édition 2024, d'abord l'épreuve, comment se déroulait-elle? Il y avait un circuit, c'est bien ça, qui s'étalait sur la périphérie quintinaise.
Oui, c'est ça. Donc en fait, c'était une journée entière, toute la journée du dimanche. Le matin, on avait une course de 3 heures en loisir, qui était vraiment pour les patineurs typés loisir, qui ne cherchaient pas le circuit, qui ne cherchaient pas les difficultés du grand circuit. Donc c'était sur le circuit autour du complexe sportif. Mmh. Et après, à 14h, on lançait les hostilités avec le marathon et le semi-marathon qui démarraient 2 minutes après sur le même circuit. Donc un circuit de 7 km cette fois-ci, qui partait de Quintin autour du complexe sportif du stade Jean Bagneux. Et donc ça allait direction Le Feuille sur la départementale. Arrivé au Feuille, on tournait, on rattrapait la route de Plénaute et on revenait. Donc ça faisait une boucle de 7 km avec un enrobé en super état. Et c'est ce que tous les coureurs nous ont ressorti. Par contre, c'était un dénivelé très... Avec un gros dénivelé, on finit avec quasiment 600 mètres de dénivelé positif à la fin de la course. C'est assez rare pour des marathons quand même de finir avec autant de dénivelé positif, mais c'est ce qui fait le charme de l'épreuve un peu. C'est les gens viennent, ils savent très bien qu'ils vont galérer à finir, mais à la fin, ils sont contents de l'avoir fait. Et c'est le but qu'on recherche, nous aussi.
Ce parcours accidenté qu'on connaît bien, c'est là aussi de quoi faire des courses animées et spectaculaires. C'est ce qu'on a pu voir. Alors, une compétition très intéressante aussi parce qu'elle compte pour la Coupe de France de roller marathon.
Oui, exactement. C'est la deuxième édition qu'on organise. La première, c'était également Coupe de France, c'était la première manche. Cette année, c'était la deuxième manche Coupe de France après 3 le week-end précédent. Le fait de rentrer Coupe de France, pour nous, ça assure un minimum de participants. Et à la fin, il y a 6 manches dans la saison. Nous, on est en tout début de saison parce que ça démarre en septembre. Et y a plein de participants qui font que des marathons dans l'année et qui cherchent à viser ce classement général. Et justement, le fait de participer à toutes les manches, on cumule des points et on peut se retrouver placé assez haut au classement général en fin de saison. Donc ça nous assure un minimum de participants. Et sans ça, je pense qu'on n'aurait pas la réussite qu'on a eue cette année.
Et oui, mais c'est bien à Quintin que toute la France du roller vient. Ça venait des quatre coins de la France, dans ce plus beau village de France, puisqu'il concourait il n'y a pas si longtemps pour ce concours télévisé. Mais c'est vrai que la réputation de Quintin, eh bien, elle bondit encore une nouvelle fois. Oui, ça venait un peu de partout. De quel secteur les gens venaient le plus loin?
Il y a beaucoup de, par exemple, il y a beaucoup de vétérans en fait qui participent aux Coupes de France. Il y en a beaucoup qui viennent d'Île-de-France, de l'Est aussi, du côté de Reims, Troyes et tout ça. Il y a beaucoup de monde qui vient de ce secteur-là. Pays de la Loire aussi, il y a une grosse masse de. Déjà, le roller de vitesse en Pays de la Loire, c'est déjà c'est très pratiqué par là-bas. Du Grand Ouest en général, il y a beaucoup de monde. Il y en a même qui venaient d'un club de Méditerranée, qui est de Roller Provence Méditerranée. Donc ça vient de tous les coins de la France vraiment pour venir participer. Il y en a plein qui viennent du côté de Toulouse aussi. Donc Donc vraiment, c'est tous les coins de la France qui sont représentés.
Et qui forcément profitent du beau paysage quintinais et du château et de son étang. Enfin bref, c'est une vraie carte postale qui est sous leurs yeux, une belle publicité pour les Côtes d'Armor. Alors raconte-nous les courses, commençons par les femmes, où c'est un doublé breton auquel on a assisté.
Exactement, c'est Aubin Plouinec qui gagne donc du club de Bouguenay, en Pays de la Loire. Et deuxième, c'est Julia Nizan, donc de Locminé. Et puis en troisième position, donc c'est Mathilde Champagnac, qui elle vient de Pibrac. Après, elles sont toutes les trois membres du pôle de Nantes, du pôle France de Nantes. Donc c'est quand même des patineuses très expérimentées qui ont pris place sur le podium du marathon de Quintin cette année.
J'ai fait une petite blagounette tout à l'heure en disant que Bouguenay était en Bretagne. Je n'oublie pas, bien sûr, que la Bretagne historique s'étendait jusqu'à Nantes. Il faut rappeler, tu as raison, hein, ce bon travail qui était réalisé également dans le Grand Ouest à Nantes avec ce pôle de formation. Pour ta part, bien sûr, en tant que costard armoricain, tu avais, toi, tout jeune, évolué au centre du Sacré-Cœur, hein, qui à l'époque n'était pas le Pôle Espoir, qui était en phase de lancement, c'est bien ça?
C'est ça. En fait, à l'époque, c'était même pas affilié au Sacré-Cœur. Donc, on était tous dans des... Enfin, j'étais même avec Nolan Bediaf et Wendal Le Pivert encore. Enfin, qui sont les plus réputés, je veux dire, Ils ont fait une super carrière par la suite.
Plutôt. <ouais.
rire> C'est ça. Et il n'y avait pas encore de lien avec le Sacré-Cœur. Donc, on avait tous nos études à côté. Et c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas les horaires aménagés et tout ça. Donc, il y avait trois entraînements par semaine en plus de nos entraînements club. C'était pas aussi poussé que ça l'est maintenant, mais c'était avec le même coach actuel qui est Vincent Morvan et il a toujours fait un super travail.
Décidément, les compliments pleuvent pour Vincent ce soir, qu'on salue. Et puis, bien sûr, hein, la formation costard armoricaine s'étend aussi jusqu'au Quintin Roller Club. Avec chez vous, on le voit bien, hein, des jeunes qui poussent et qui s'imposent sur le circuit breton. Allez, on va s'intéresser maintenant sur la course masculine, où là, eh bien, c'est vraiment le signe que cette compétition était vraiment relevée. Puisque le champion de France 2024, Louis Collin, n'a pas réussi à l'emporter, il n'est arrivé que troisième.
Oui, c'est ça, il est arrivé troisième. Après, c'est un peloton très serré. Hein. Je veux dire, c'est, on va dire, toute l'élite française, à part ceux qui étaient sélectionnés au championnat du monde, ils étaient quasiment tous là, on va dire, l'élite française du marathon. Donc, ça, même au championnat de France, quand Louis Collin a gagné, c'était une arrivée très serrée au sprint. Donc là, c'était encore le cas et c'était même au lancer de patin en tête pour Hugo Gérard, donc qui remporte la course cette année. Mmh. Ils ont fini au lancer de patin avec Doucelin Pédicaud, lui de Dijon, qui termine deuxième, mais d'une roue derrière Hugo Gérard. Et puis c'est Louis Collin qui finit derrière.
Une arrivée au
sprint. Mais ça a toujours été très serré, hein, donc c'est vraiment jamais forcément les mêmes qui gagnent. Et puis bon, il y a eu la trêve entre-temps, donc... comme c'est en tout début de saison, souvent la préparation physique n'est pas la même pour tout le monde, donc...
En tout cas, une épreuve, on l'a vu, hein, qui a été serrée jusqu'au bout, une arrivée au sprint avec du public. Et puis voilà, encore un grand succès pour le Quintin Roller Club. Un coup de chapeau également à Nicolas Rouxel, hein, votre coach qui s'occupe des enfants avec cette jeune section qui débute. Et puis pour ta part, un grand coup de chapeau également avec Emmanuel Cornic qui s'occupe de l'organisation là aussi. Bravo, bravo les gars, ça a été... un très bel événement, vivement l'année prochaine. On se retrouve au cœur de l'hiver, puisque je crois qu'il y a la Coupe de Bretagne Indoor qui arrive, hein, à la salle Guy Bazin.
Oui, comme tous les ans, on organise une Coupe de Bretagne Indoor. La date mérite confirmation, donc je ne vais pas engager de date comme ça, parce qu'il n'y a pas de sûreté encore sur ça, donc le calendrier officiel n'est pas encore diffusé. Mais tous les ans, il y a une Coupe de Bretagne Indoor organisée à Quintin, donc dans la salle Guy Bazin.
On va s'y retrouver.
Où là, toute la jeunesse du roller de vitesse bretonne sera présente aussi, comme tous les ans.
Parfait. Merci beaucoup, Erwan Michou du Quintin Roller Club, d'être avec nous sur Côte FM. Et on se dit à très bientôt à la salle Guy Bazin.
À bientôt.
Salut, Erwan.
Merci. Salut.
Vous vous rendez compte un petit peu de la qualité de cette épreuve des grenouilles à roulettes. Le nom fait sourire, mais c'est à la fois super sympa, ça se prend pas au sérieux, mais c'est surtout un super niveau. Vous vous rendez compte, les deux champions et championnes du monde de cette année étaient l'an passé au roller, au grenouille sur roulette, hein, le roller marathon de Quintin. C'est la grande référence, une des très grandes références françaises. Et ça, c'est Zucchero, baila. On va passer à la partie suivante. On tourne la page roller sur vitesse et on va rentrer dans le rink hockey. Avec Richard Cocciante, forcément. L'Italie.
Quando la neve di silenzio imbiancò tutto quel chiasso al centro della città e le nostre parole gelò, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu.
On rejoint tout de suite Olivier Gelbart qui revient tout juste d'Italie. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Très flatté d'avoir un gardien de but international avec un palmarès aussi large. Olivier, forcément que ta place au sein du staff de l'équipe de France était largement méritée. Tu as pris beaucoup de plaisir, j'imagine, avec ce World Skate Games 2024.
Oui, exactement. Donc, moi, je suis très content d'avoir intégré le staff des équipes de France, U17, U19. Donc, ça, c'est vraiment une chance. Donc, j'accompagne Stéphane Hérin en tant qu'entraîneur national adjoint. Donc, voilà. Donc, aussi, je suis là aussi pour apprendre, prendre en compétence. Et je prends énormément de plaisir parce que je touche encore le haut niveau. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Donc, là, j'ai eu la chance d'accompagner cette équipe U19 au World Roller Games, organisé à Novara en Italie.
Voilà, à Novara, dont tu reviens juste, avec un résultat un petit peu en deçà de ce que je pense l'équipe de France U19 aurait mérité, avec notamment un scénario de match absolument incroyable contre l'Argentine, qui fait partie des favoris.
Oui, alors exactement, c'est là, l'équipe de France a été extrêmement performante. On finit cinquième, mais il faut savoir que finalement, on perd que 3-2 contre le deuxième, contre Portugal en poule. On perd 4-3 contre l'Argentine en quart de finale, donc on en reparlera, et 4-3 contre l'Italie en poule également. Donc cette équipe de France rivalise avec les meilleures nations au monde. Donc ça, c'est super intéressant. Et c'est vrai que l'équipe de France rate de très très peu de choses en quart de finale contre l'Argentine, donc qui était championne du monde en titre. Et donc voilà, un match épique. On menait 3-1 et cette équipe quand même a des joueurs vraiment très très techniques, comme on connaît bien le niveau des joueurs argentins. Ils arrivent à gagner. Donc ça se jouait sur des petits détails, des petites erreurs défensives, une mauvaise relance à un moment donné, un coup franc direct qui a été raté. Voilà, ce sont des points de détail. C'est le haut niveau. C'est décevant parce que on pouvait espérer passer dans le dernier carré, mais la compétition a été belle. On a eu les félicitations des entraîneurs nationaux, et notamment on peut citer Felipe Faria, l'entraîneur adjoint de l'équipe du Portugal, qui est venu nous voir, Stéphane et moi, et pour vraiment nous féliciter et nous expliquer que voilà, que cette équipe a été très performante et était prometteuse,
avec des éléments qu'on espère retrouver en équipe de France A, qui a raté la marche cette fois-ci pour accéder au podium, on en reparlera avec Mathieu Leroux. Mais on a une équipe de France, donc une 19 bourrée de talent, et puis du costard mauricain, à commencer par Matteo Garcia, dont le nom m'avait tout de suite été cité par Nuno Lopez, l'entraîneur actuel, le sélectionneur de l'équipe de France. Matteo qui vraiment franchit des paliers très importants en ce moment au sein du HC Dinan Quévert.
Oui, Matteo Garcia, c'est un joueur... C'est un joueur qui a gagné en maturité très rapidement. Donc c'est bon, il fait partie de cette colonne vertébrale de l'équipe jeune du hockey du Dinanquet Vert avec Noan Oliviero, Matteo Garcia et Liloane Gelebar. Donc c'est vrai que Matteo a gagné énormément en maturité et c'est vrai qu'il l'a montré sur la compétition en général, cette maturité, cette capacité de récupérateur de balles et voilà, cette expérience défensive, c'est une pièce très très importante dans la composition de l'équipe de France U19. Il a déjà participé à un stage avec l'équipe de France senior et on le retrouvera certainement assez rapidement, voire à court terme, j'espère, au plus haut niveau. Voilà. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Guy, il avait crevé l'écran lors de cette finale de Coupe de France contre Ploufragan. C'était à la salle Neumé en mai dernier. Et vraiment, on voit le tout meilleur pour lui. Jamais facile que je vais te demander, cher Olivier, mais il y a ton gars dans cette équipe. Il y a Liloane. Alors, Liloane qu'on a vu évoluer l'an passé à Quévert et puis à Ploufragan également. Liloane qui va aller prendre de l'expérience au Portugal la saison prochaine. Il y a un itinéraire qui est incroyable pour ce jeune talent.
Oui, bah alors Liloane, bon, c'est vrai que c'est pas facile d'en parler parce que c'est mon fils, mais bon là, c'est vrai qu'il a, je suis hyper content pour lui parce qu'il a fait une très très belle compétition au Portugal. Donc il a fini troisième meilleur buteur avec 10 buts, le premier à 12, et il finit dans les 10 meilleurs joueurs au monde dans l'équipe idéale au niveau des journalistes. Donc c'est une belle récompense pour lui et pour son travail, c'est vraiment un travailleur. Et il va continuer de sa formation au Portugal, au sein du club de Valongo, où il va jouer dans l'équipe B, et il va jouer en U19. Et il va essayer d'intégrer petit à petit les entraînements de l'équipe 1, et voilà, pour prendre vraiment de l'expérience. Et là, c'est vrai que c'est un choix qui a été fait pour d'aller dans le meilleur championnat au monde, pour pouvoir encore évoluer et accéder au plus haut niveau, et un jour, peut-être, en équipe de France A.
Bien sûr, voilà, percé, bien sûr. Et puis, je fais confiance à tes talents de gardien. Tu as été gardien international pendant tant d'années avec des grandes compétitions auxquelles tu as participé, et notamment cette troisième place à l'Euro 2010 en tant que gardien de l'équipe de France A. Et puis, il y a Noan Oliveiro qui était à Quévert l'an passé et qu'on va retrouver dans les cages du Quintin Roller Club. Qu'est-ce que tu en penses de ce jeune talent?
Alors pour moi, c'est toujours pareil, c'est un joueur que j'ai formé. On n'a pas du tout le même gabarit, donc on a toujours essayé de réfléchir à son jeu. C'est un joueur, pour moi, c'est le gardien qui a le plus grand potentiel en France, ça c'est une certitude, voire même en Europe, parce qu'il y a 2 ans, il a quand même été élu meilleur gardien d'Europe. Donc ça, c'est quand même c'était la première fois. Donc c'est arrivé, ça n'était jamais arrivé avant. Et donc ça, c'est vraiment une chance pour lui. Maintenant, lui, il va essayer d'emmagasiner de l'expérience. Il a muté pour le club de Quintin cette année, c'est vraiment un très bon choix. Donc il va pouvoir tenir le club, et c'est vrai que ça va être une année difficile pour le club de Quintin, et Noan va pouvoir prendre beaucoup d'expérience. Et là maintenant, lui, ce qui lui manque, c'est vraiment l'expérience au plus haut niveau et s'habituer à ces matchs intenses pour pouvoir encore grandir et montrer tout son talent.
Ouais, on se réjouit également de le voir challenger Juan Montalant, le gardien actuel du QRC. Hein, là aussi, ça va faire une sacrée belle doublette et il faudra un sacré talent dans les buts pour arracher le maintien qui sera l'objectif. Dernier mot, je veux surtout pas oublier le RAC, hein, puisqu'il y avait deux éléments du RAC, Louis Manac et Alexis Lozac, dans les stages de préparation avec cette équipe de 2019. Donc on voit que ça forme vraiment bien dans les Côtes d'Armor. Je te remercie beaucoup Olivier pour cette prise de parole. Pas évidente, hein, on l'a bien compris, mais on te sent très motivé pour voir cette équipe de jeunes grandir.
Oui, de toute façon, là je pense que le monde du hockey actuellement est vraiment à une étape primordiale. On voit bien que l'équipe de France A performe à plus haut niveau, et là on voit bien que cette équipe là avec d'autres joueurs, hein, il n'y a pas que cette équipe de France U19, il y en a d'autres, mais voilà, il se passe quelque chose en ce moment. Donc là, il faut que ces jeunes là puissent monter en puissance. Il faut aussi, le message à faire passer au club, notamment en coast américain, c'est de cibler les joueurs à potentiel et puis de les accompagner pour les faire monter en puissance au plus haut niveau, comme a fait le club de Lorient, on en parlait tout à l'heure, ou les clubs de rugby, former les jeunes du club pour au service d'une équipe, une future équipe de France. Et donc ces jeunes-là ciblés équipe de France, il faut U17 ou voilà, il faut les accompagner, leur offrant en essayant de leur offrir les meilleures conditions pour grandir comme joueur. Donc c'est deux entraînements, c'est une préparation physique, la nutrition, tout ce qui est le staff médical. Il faut les accompagner et se mettre au service aussi des équipes de France pour après atteindre des objectifs, notamment essayer de retrouver le statut de haut niveau que l'on a perdu il y a quelques années et qui engendre énormément de compétences au niveau du budget, au niveau fédéral, mais aussi des accompagnements des joueurs lorsqu'ils doivent partir en compétition. Et ça, c'est vraiment l'un des plus grands objectifs que la France doit atteindre vraiment à court terme.
Merci beaucoup Olivier Gilbert pour ces mots plein de bon sens qui sont bien passés. Et puis bravo pour l'ensemble de ta carrière. C'est un grand plaisir de t'avoir une nouvelle fois sur l'antenne de COB FM. Olivier Gilbert, donc entraîneur adjoint de l'équipe de France U19. À bientôt Olivier.
Allez, à bientôt. Merci à toi. Allez, au revoir, au revoir.
Et pour finir cette émission, un régal de recevoir Mathieu Leroux. Salut Mathieu.
Salut Gaël, ça va?
Ouais, juste après notre interview, on entendra ce petit morceau de la demi-finale où tu nous marques ce troisième but qui donne la finale. Ouais, c'était juste avant cette série de tirs au but, mais quel incroyable Final Four, Mathieu. On ne s'est pas eu depuis sur COB FM, mais je sais qu'il y a de la tristesse, mais en même temps de la fierté.
Ah ouais, c'était un super souvenir, très dur à digérer forcément, si proche du but, mais avec du recul, ouais, on s'est dit qu'on avait fait quand même un super week-end et on avait fait quelque chose de grand quand même.
D'autant que tu mènes à la marque contre Kever chez lui, t'es sur le point de faire d'exploit et puis la dure réalité.
Ouais, c'est ça, exactement, voilà, il manquait un petit peu cette petite touche cardio à la fin pour aller chercher les séries de tirs au but. C'est dommage, mais bon, après voilà, c'est pas démérité non plus, Kever avait fait son match. Avec un peu de recul, on se dit que c'était quand même une super finale.
Bon, en parlant de cardio, il paraît que ton cardio, il a monté là ces derniers jours,
oui,
à la maison.
Il a monté un petit peu avec la naissance de ma fille il y a 15 jours. Donc ouais, il est temps de retravailler pour le début de saison là.
Comme on dit, c'est un très très joli but, longue vie à Esmé et bisous à Aria. Allez, on retourne sur le sujet avec les World Skate Games, donc ce voyage en Italie et puis l'équipe de France qui nous a pas déçus, mais c'est toujours un peu rageant de ne pas les voir passer le cap, surtout que ça avait bien commencé contre l'Espagne.
Ouais, tout à fait, ça laisse un petit goût amer. Bon, après c'est une belle cinquième place, on va pas se mentir non plus. Ils ont tenu la dragée haute à toutes les équipes comme depuis quelques années. Mais voilà, ça s'est joué sur un match, je pense, l'Italie en poule où ils perdent sur la plus petite démarche. Et après derrière, un tirage compliqué en quart de finale contre l'Armada portugaise. C'est dommage, ça aurait pu faire mieux, mais bon, je pense qu'ils peuvent quand même être fiers d'eux.
L'Italie, chez elle, forcément, avec l'appui du public, ça fait souvent la différence en Rincoque et le public.
Oui, exactement, ça on va pas se mentir, on l'a bien vu, l'Italie qui a été chercher une super troisième place, ils ont battu les Portugais en 3-4e, alors qu'ils n'étaient pas favoris sur le match, et on a senti quand même que l'effet à domicile et l'effet du public leur a donné un second souffle et ont été chercher une super troisième place. Non, là-dessus, on peut le dire, ça joue énormément dans le ring hockey.
Bon, dis-moi, l'Italie, c'est un drôle de souvenir pour toi, on se souvient forcément du World Skate Games 2022, lorsque vous les cogniez, comme on dit, pour prendre cette première médaille de bronze de l'histoire de l'équipe de France. Quel souvenir en gardes-tu, toi, de ce moment-là?
Bon, c'était un de mes plus beaux souvenirs dans ma carrière, hein, c'est sûr, parce qu'en plus de ça, on va pas se mentir, il y a toujours une tire depuis plusieurs années. Et donc là, aller vraiment les battre dans le moment, dans le meilleur des moments, on va dire, c'était incroyable, surtout avec le contexte d'aller jusqu'au tir au but où on était mené encore à 6 secondes de la fin, on va chercher la prolongue et qu'on aille les battre au tir au but dans une salle de plus de 8000 personnes, c'était juste incroyable.
C'était l'équipe de France de Fabien Savreux. Depuis, Nuno Lopez est aux commandes avec un nouveau mode de fonctionnement, toujours les frères Di Benedetto. Comment tu la vois, toi, cette équipe de France?
C'est une super équipe de France. Moi, je trouve qu'il a bien remanié aussi son équipe. Il l'a refait à son goût. Il a été cherché assez jeune aussi, dont Thibaut Collin, mon ancien coéquipier à Saint-Omer, qui est très jeune. Il a repris un nouveau jeune aussi, français-espagnol, Marc Rouzet, qui a montré qu'il était vraiment un super niveau. Il est encore très jeune. Il a fait un super tournoi. Non, c'est une très belle équipe. Et les frangins qui viennent toujours un petit peu, on va dire... voilà, combler, enfin mettre cette équipe en avant, et après justement les autres viennent apporter leur petite touche, et non, c'est une très belle équipe, ça joue très très bien, et c'est vrai qu'ils auraient mérité, mais franchement ils ont fait un super tournoi malgré le classement, quoi.
Il y a clairement désormais une nette différence entre le top 5 dont fait partie la France, et puis le reste ensuite, avec des nations aussi sympathiques soient-elles, avec l'Angola, la Suisse, mais on voit que c'est quand même nettement derrière.
Oui, maintenant on voit bien que l'écart s'est creusé. À l'époque, il y a encore un an ou deux, hein, on était vraiment coude à coude avec l'Angola, ce genre de nation, même le Mozambique avant aussi, qui venait aussi avec, c'est une nation portugaise qui venait aussi compléter un petit peu ces grosses nations, où là maintenant vraiment l'écart s'est complètement creusé. On l'a vu sur le dernier match où la France, pour la 5-6e place, a gagné 8-2 contre l'Angola, où il y a encore quelques années, ils étaient capables largement de nous battre. Donc non, vraiment l'écart s'est creusé, et je pense que oui, maintenant, encore plus qu'avant, la France mange à la table des grands, quoi.
Exactement, c'est bien ça qu'il faut entendre. Le niveau du rink hockey français s'est considérablement amélioré ces dernières années. Bravo à tout le travail qui est fait par les clubs, les entraîneurs, les bénévoles, et tout ça, ça mène à ces beaux résultats. Dis-moi, retour en France avec ce championnat de N1 qui arrive avec dans un peu plus d'une semaine, ce premier match contre Noisy à la salle Glénan à Ploufragan. Noisy qui est une belle équipe, même si l'an passé ils ont fait une saison en demi-teinte.
Oui, tout à fait. Après Noisy, ou alors ça reste Noisy, c'est une équipe qui est dans le haut de classement depuis plusieurs années maintenant. L'année dernière, voilà, c'est ça. Ils sont passés un petit peu à côté de leur saison. Voilà, ils ont pas réussi à relever la tête malgré qu'on les attendait à revenir sur la deuxième partie. Bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que c'était une année noire pour eux. Ils vont sûrement revenir de ça. Donc, on va être très méfiants chez nous, surtout un premier match comme ça, c'est jamais facile. C'est toujours une petite phase d'adaptation, voir comment les deux équipes se sont préparées, tout ça. Mais non, ça va être un très très gros match pour commencer, et surtout un beau défi pour voir un petit peu où se placer dans ce championnat, quoi.
Et puis juste après, on va enchaîner par un petit derby à la salle des métiers.
Forcément. Ce serait pas drôle sinon.
Tout le monde l'attend celui-là, je pense.
Ouais, on va jouer à Quévert dès le deuxième match. Donc Quévert qui s'est vachement renforcé, Quévert qui reste 60, toujours dans le top 2 du championnat N1 depuis des années. Donc là, ça va être vraiment le défi direct où il va falloir être dans sa saison. Il va falloir essayer d'accrocher l'armada quévertoise qui, ouais, comme je l'ai dit, a fait un super recrutement. On les a rencontrés au tournoi Monique Chanu, où on a pu voir qu'ils ont fait un recrutement, dont Guido Pellizzari, qui joue avec moi à Saint-Omer, que je connais très bien, qui vient de l'ICO, donc un top club européen, qui revient en France. Et lui, il a apporté clairement quelque chose qui manquait à Quévert.
On m'a dit enfin que le réveillon du 31 décembre sera plutôt léger cette année chez les Leroux, puisque le 4 janvier, il y a un derby Quintin-SPRS.
Ouais, directement après. Justement, on va faire la fête un petit peu ensemble avant de se mettre sur la tronche, comme on dit au mois de janvier.
On embrasse bien sûr Tony, et puis on vous souhaite à tous, à ces trois clubs costa-américains, une très belle saison 2024-2025. À très bientôt Mathieu Leroux, et merci encore.
Merci Gaël.
On écoute tout de suite ce petit moment avec Sébastien Landrin et moi-même au micro. C'était le 4 mai dernier. Salut Mathieu.
Salut Gaël.
Ouais. C'est parti Mathieu Leroux qui va en seul à seul face au gardien. Allez, but de Mathieu. Mais non, il a mis le troisième. Il est en train de qualifier son équipe.
C'est la même situation que tout à l'heure. Une mauvaise passe, contre-attaque. Et là, au lieu de shooter, il met une petite balle piquée, un poteau rentrant.
Je m'excuse parce que là je me suis un peu enflammé, j'ai un peu crié, mes cordes vocales, mais franchement quel joueur ce mec, mais quel joueur incroyable. Il me l'a dit, 14 rue Saint-Benoît, il me l'a dit à Cob FM, que oui, plus fragant les frères. Il a dit, mon poumon, on va le faire. Et il est en train de tenir promesse.
Hoy,
Merci d'avoir été nombreux à nous écouter encore pour cette émission spéciale Roller. On se retrouve la semaine prochaine. Alors la playlist ne sera pas italienne hein, comme cette semaine, mais voilà, si ça valait le coup, comme c'est World Skate Game en Italie. Bisous, bonne semaine à tous et vive le sport.
KBFM.
19h.